I know how it sounds.
La sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en compagnie de Mel et Max.
Hey, salut!
Hello, hello! Grosse journée de sondage aujourd'hui!
Hey, oui, hein? Comment
merci.
Tu te sens?
Bien, merci beaucoup d'être à l'écoute. Merci beaucoup d'être fidèle au poste tous les soirs, 22h. C'est un honneur pour moi d'avoir le micro et de pouvoir vous partager tout ce qui touche la sexualité, les relations. En ta compagnie, Max.
Ben, c'est un honneur pour moi aussi de faire partie de l'aventure de la sexploratrice. Puis comme je le dis souvent, merci d'être là. Merci aux auditeurs parce que sinon, ben, on n'aurait rien que l'air d'une gang de fous qui se parle tout seul. Vous êtes extrêmement
voilà.
important. Puis un
oui.
gros merci à tout le monde.
Vraiment, merci beaucoup aussi pour vos dons généreux. Pour le sapin Radio X,
ben oui.
ça entre constamment. Et merci beaucoup au nom de toute l'équipe, au nom de la Fondation du CHU de Québec, au nom de, des enfants malades. Dites-nous d'où est-ce que vous nous écoutez?
Où êtes-vous?
Ce soir, 418-670-9098. Vous le savez, on aime ça vous lire. Ça fait longtemps que je vous l'ai demandé. Donc, dites-nous ça. Là, d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir? C'est toujours un plaisir de vous lire.
Oh, on a Mike de Bathurst ici. Bathurst, quand même, Nouveau-Brunswick, hein?
Oh!
C'est loin, ça? C'est... Salut, Mike, comment ça va?
Hello, hello! Donc, c'est ça, c'est toujours un plaisir de vous, ben, c'est ça, de vous savoir avec nous et, tous les soirs, soir après soir. Et c'est le fun aussi de savoir qu'on a des collaborateurs qui sont fidèles au poste également, comme ce soir, encore une fois, Dr. Paul Simard, psychologue.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir,
bonsoir.
Docteur. Bonsoir!
Dr. Simard, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui, je pense, devrait... toucher tout le monde. En fait, tout le monde devrait connaître son langage amoureux. On en a déjà parlé dans, oh. d'autres, dans d'autres émissions comme ci, comme ça. Mais là, on va vraiment faire le tour en profondeur de tous les langages amoureux. Surtout qu'avec l'approche des fêtes, on le sait, c'est une période propice aux demandes en mariage.
Oui. Hein? J'ai pas vu le stat là-dessus. Il y a plus de demandes en mariage durant les fêtes?
Dans la période des fêtes, oui. C'est une période où il y a beaucoup de demandes en mariage.
Ah, ouais.
Donc, on va faire le tour des langages amoureux. Et moi, je veux... En fait, je me demande pourquoi est-ce si important pour certaines personnes d'avoir un objet significatif comme une bague ou un bijou pour comme officialiser ou...
Oui, oui.
Ben, c'était le symbole, je pense. Rien de plus que ça,
c'est
probablement.
C'est ça, c'est le symbole. Mais il y en a pour qui c'est extrêmement important et d'autres pour qui pas du tout. Docteur Simard, on a vécu l'expérience. D'ailleurs, Max était présent aussi. On avait un couple qui était présent lors de notre soirée « La sexploratrice et le psy ». Madame, pour elle, c'est extrêmement important et elle mettait même de la pression auprès de son conjoint pour qu'il lui fasse un cadeau.
Elle a dit ça devant tout le monde.
Pour qu'il lui fasse cadeau d'une bague.
Son conjoint voulait rentrer dans la chaise.
Lui, clairement, n'était pas prêt à ça. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, Dr. Simard, des gens qui mettent de la pression auprès de leur partenaire pour avoir une bague ou une demande en mariage?
Ben souvent, la pression va apparaître quand ça n'a pas été entendu les premières fois. Donc là, est-ce que c'est parce que la personne ne l'a pas demandé de manière claire? Parce qu'il y a, il y a trois étapes pour faire une bonne demande.
Ah oui?
Puis faire une bonne demande, c'est pas donné à tout le monde. Donc il y a des gens qui expriment du mécontentement ou des frustrations qui confondent ça avec une demande. Mais c'est pas tout à fait la même chose.
OK.
Puis parfois, ben, il y a des gens qui veulent pas écouter non plus, hein, qui s'intéressent pas vraiment à l'opinion de l'autre puis qui essayent d'évacuer le thème. Ouais, 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 ça les angoisse, fait qu'ils essaient de mettre ça de côté.
Mais qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des gens qui expriment du mécontentement et qui confondent ça avec une demande.
Ben, mettons quelqu'un qui dit « Tout le monde autour de moi est marié. Comment ça que tu m'as pas fait une demande en mariage?
Je vais la demander en mariage, moi! »
Ben, ça, okay. C'est une plainte. C'est okay. Pas une demande.
Oh.
Mais il y a peut-être pas une demande qui se cache en arrière de ça?
Peut-être que oui. Mais c'est de là où il faudrait développer les compétences en communication.
Oui. Puis pourquoi pas, au pire, faire la demande toi-même?
C'est vrai, ça ouais. se peut. Oh, c'est, mais c'est contre-culturel.
C'est ouais. contre-culturel que madame ben fasse oui. la demande, ben oui. mais je pense qu'aujourd'hui, on pourrait.
Ben oui, on peut très bien.
Moi, je le ferai, tant qu'à attendre.
Veux-tu que je donne le truc aux auditeurs, c'est quoi les trois ingrédients d'une bonne demande?
Oui.
La première, c'est parler d'un besoin, parler de soi. Informer l'autre de ce qu'il ne sait pas, donc vous, le gars. Donc, j'ai besoin. La deuxième étape, c'est un comportement spécifique, là, mesurable, que tu me demandes en mariage. Puis la troisième étape, c'est une recherche de validation. Qu'est-ce que t'en penses? Es-tu d'accord?
Veux-tu m'épouser?
As-tu une contre-offre à ma demande?
OK.
Donc, on a eu les trois ingrédients spécifiques.
Es-tu on parle pour de... l'école de faire ça en public ou en privé?
Il y a des gens qui se filment hein, pour ça. Aujourd'hui, on est dans un monde de la médiatisation. Fait mm-hmm. qu'il y en a, ça va dépendre de la personnalité des gens.
C'est sûr que tu te filmes. Si ça se passe bien, tu le partages. Sinon, tu le gardes pour toi.
Ouais, tu le regardes en pleurant le soir.
Est-ce qu'il y a une façon de refuser une demande en mariage gentiment? T'sais, c'est hyper malaisant. Là, imagine, tu te sens pas prêt, tu sens ça comme une grosse pression.
Hey, ça, c'est une excellente question. Surtout si c'est fait en public.
Écoute, est-ce qu'on doit accepter pour l'image et en privé expliquer à la personne, écoute, finalement, moi, je suis pas prêt à ça.
Ça va dépendre où la personne a bâti son identité. Si l'identité est dans l'image puis que ça se fait en public, il est possible qu'il y ait besoin de faire une acceptation, mais là, ça sera une acceptation mise sous pression. Là. On n'est plus dans un consentement ici. Là. Fait que si une relation demande en mariage se situe déjà dans une violation du consentement, imaginez la suite, qu'est-ce que ça risque d'être. Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a un nombre d'années que les gens passent ensemble avant de se demander la main?
C'est rendu... Le monde sont impulsifs. Hein?
Hey, parfois, au bout de 6 mois, on en voit. Là. Mm-hmm. Fiancé au bout de 6 mois, marié au bout d'un an.
Mais c'est parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus le même sens que ça avait peut-être dans jadis ou dans d'autres cultures. Ici, on ne se marie plus par nécessité. On est capable de créer de l'abondance de manière individuelle dans notre société nord-américaine.
C'est vraiment pour unir, pour officialiser la relation plus qu'autre chose. Ce que je trouve drôle, c'est que souvent, la pression, la demande en mariage va tellement être forte sur l'autre conjoint que ça va faire l'effet inverse, ça va le « turn it off ». Parfois. Tu sais, à longue de te faire demander « quand est-ce que tu me demandes un mariage? Quand est-ce que tu me demandes un mariage? »
Oui, c'est ça. Ça devient du harcèlement, peut-être.
Oui, puis j'ai même déjà vu un couple qui s'était séparé et avait recommencé à se voir. Ça allait super bien. C'est surtout qu'ils avaient repris en toute connaissance des blessures de l'autre, langage amoureux, tout ça. Donc, ils reprenaient ensemble avec un pas d'avance, hein, en connaissant bien l'autre et tout. Mais mademoiselle avait tellement besoin, au bout de quelques semaines, d'officialiser qu'elle n'arrêtait pas de demander à monsieur, puis on est-tu redevenu un couple? Puis on est-tu en couple, là? Puis lui, ça lui a tellement mis de pression qu'il lui a dit à un moment donné, écoute, tu dis, je suis pas capable de te répondre. Là, regarde, on va prendre nos distances. Lui, ça l'a repoussé. Plutôt que si elle avait laissé aller la relation, probablement que naturellement, il serait redevenu un couple.
Ouais. Je pense qu'on a l'impression de perdre le libre arbitre quand des situations comme ça arrivent. On n'a pas l'impression de choisir par nous-mêmes. Puis c'est plutôt un choix qui devient imposé.
C'est ça, exactement. C'est comme le besoin de mettre une étiquette à tout prix sur la relation.
Ouais. Puis il y a des gens qui punissent l'autre en n'ayant pas le mariage. J'ai une amie, pas une cliente, une amie qui trompait son conjoint parce qu'il ne voulait pas la demander en mariage.
Non!
Puis là, tous les mois, elle refaisait un check-up. T'es sûr que tu veux pas me marier? Puis là, j'ai squeezé un petit peu mon amie en lui disant « Tu trouves pas que c'est un petit peu manipulateur? Tu l'aides pas à aller vers une demande de mariage? » Mais ça répondait à une espèce d'angoisse intérieure. Puis c'était tellement souffrant pour elle qu'elle explosait ça dans une espèce d'acte d'auto-sabotage de la relation.
Mais est-ce qu'elle le mentionnait à son conjoint qu'elle le trompait?
Non, c'était en cachette.
OK, c'était en cachette. Arc!
Eh oui.
Quelle relation malsaine!
Ben oui. Mais ça fait partie des configurations qui sont peut-être plus fréquentes que ce qu'on pense. Okay. Dans un monde où les relations tiennent sur le feeling et non plus sur l'engagement, ben il y a toutes sortes de mix de feelings qui peuvent être toxiques, qui peuvent être très saines également. Il ne faudrait pas dresser un portrait que catastrophique.
Ouais, j'ai l'impression aussi que le mariage ne veut plus dire la même chose qu'à l'époque aujourd'hui.
Mais non, exact.
Aujourd'hui, c'est quoi pour toi, Paul, le mariage?
C'est comme l'échelle Disney.
Ouais.
Explique-nous, là. Ordonne, tu me l'as expliqué, mais explique aux auditeurs l'échelle Disney.
Ben, l'échelle Disney, c'est si vous voulez savoir, messieurs, le moment propice à faire une demande en mariage à votre partenaire féminine dans les couples hétérosexuels, demandez à votre partenaire combien de films elle a écouté de Disney lorsqu'elle était jeune. Puis là, c'est un point pour chaque film. Donc ça va vous donner le pourcentage de chances que votre demande en mariage fonctionne.
Toi, t'es un psychologue accrédité. Hein?
Mais ceci n'était pas une vraie échelle.
Mais
c'est pour faire le pont avec les fantaisies. Jusqu'à quel point les fantaisies imaginaires romantiques ont imprégné le fonctionnement, t'sais, la compréhension de l'amour de la personne.
Hey, j'ai jamais écouté aucun film de Disney au complet.
Oh! Voilà la réponse que les auditeurs se demandaient.
Mais l'échelle de Disney est complètement absurde, mais il y a quand même, ça s'appuie sur un fond qui, somme toute, assez concret dans le sens où on est influencé par ce qu'on voit, par ce qu'on consomme quand on est jeune, donc on a tendance à le reproduire.
La vraie théorie, ça serait la théorie sur la socialisation primaire. Quand on est enfant, avant la disparition de la croyance au Père Noël puis la fée des dents, là, jusqu'à vers 6 ans à peu près, là, les enfants y introjectent les modèles ambiants de fonctionnement. Donc avant 6 ans, ils ont écouté plusieurs films. Là.
Ouais.
Puis ça influence, ça modèle les représentations intérieures de qu'est-ce qui est normal ou pas dans les relations amoureuses.
Mais c'est ça, en fait. Puis même aujourd'hui, on le voit, il y a des gens qui se sont vraiment fiés à tout ce qu'on voit dans les films et tout pour idéaliser la relation parfaite aujourd'hui. Mais c'est pas ça. L'amour, c'est un choix conscient qu'on fait de s'engager avec quelqu'un au-delà de la passion, au-delà des feelings du début de la relation. Puis c'est vraiment, on l'a déjà dit souvent, être en couple, c'est pas pour nous rendre heureux.
Non.
Un couple, c'est là pour créer des projets à deux, pour évoluer dans la vie, pour construire quelque chose à deux ou à trois ou whatever, là, parce que bon, maintenant, il y a des troupes, des quads.
Ouais.
Mais
je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'amour, c'est de l'acquis. Il y a encore, moi, dans mon entourage, j'ai plein de gens qui pensent comme ça, alors que l'amour, pour moi, c'est un effort. C'est la volonté de vouloir bâtir quelque chose, c'est la volonté de vouloir s'impliquer, c'est la volonté de vouloir s'engager. Donc, ça demande un effort.
Absolument. Ça demande un effort une fois la passion passée. Parce que la passion, bon, c'est les débuts, tout
c'est
ça, c'est formidable.
Mais ça se fait tout seul, exactement. T'es dans l'endorphine, t'es dans tout ça. Là.
Exact. Donc, quand ça s'estompe, c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils n'aiment plus leur amoureux, leur amoureuse, et qui vont parfois même quitter le bateau, quitter la relation à la recherche d'une autre sensation comme ça avec quelqu'un d'autre. Alors que c'est après cette période-là, arrête-moi si je me trompe, Dr. Simard, mais c'est à ce moment-là que la relation pourrait évoluer vers le véritable amour, en fait, vers le véritable... C'est ça, le véritable amour, finalement.
Oh oui.
Parce que c'est à ce moment-là que la relation évolue, que les liens affectifs se renforcent.
C'est quoi le véritable amour pour toi, man?
Ben, le véritable amour pour moi, mais moi, je sais que je vois les choses différemment de beaucoup de gens, là. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie. J'ai appris, en fait, à subvenir à mes propres besoins. Donc, je veux que l'autre... Je veux pas que l'autre ait besoin de moi, puis je veux pas avoir besoin de l'autre, mais je veux qu'on soit un plus dans la vie de l'autre. Donc, je veux que ce soit mon plus un. Je veux qu'on se complète, qu'on... Puis oui, qu'on soit pas toujours d'accord, puis qu'on avance ensemble, mais que ce soit pas... tu sais, j'ai déjà vécu des relations un peu sous la dépendance affective, puis fusionnelle et tout, puis c'était pas sain. Mmh. Tu sais, c'était vraiment pas sain. C'était plus... c'est vraiment push and pull, comme on dit.
Tu t'appuies sur l'autre, il s'appuie sur toi.
Oui, puis vivre beaucoup dans la reconnaissance de l'autre. Tu sais, moi, je suis une personne à part entière, t'es une personne à part entière. On fait un nous, mais tu sais, c'est un plus un à ma vie et pas un manque à combler. C'est pas ma douce moitié, c'est pas ça.
Ouais.
Pour moi.
Aurais-tu un peu la même vision que Mel quant à ça, Paul?
De manière similaire, oui, mais moi, j'aime pas parler de véritable amour parce que ça renvoie à l'idée qu'il y en a des faux. Puis qu'un jour, là, tu vas avoir le vrai. Là. C'est quand, là? Ça prend l'avis des experts. Donc, c'est moi, vrai. Je préfère plutôt parler d'amour réaliste.
Ah, c'est bon.
Donc, réalistement, est-ce qu'on peut ancrer le sentiment amoureux dans des repères qu'on va partager ensemble, qu'on va être d'accord, qui vont construire quelque chose? Fait que l'inverse de la passion amoureuse, selon moi, c'est l'amour réaliste.
L'inverse ou la continuité?
Ben, je dirais l'inverse parce que l'amour passionnel, c'est une illusion, une tempête, c'est de l'agitation, beaucoup de souffrance.
C'est un ouragan.
Oui. Alors que l'autre...
Mais est-ce que ça peut être passionnel et sain?
J'aurais bien des doutes là-dessus.
Ah oui?
Le coup de foudre, c'est rare, les gens qui survivent à se faire foudroyer. Donc, chacune des deux des parties, on va dire, des trois composantes de l'amour passionnel ont un volet plus réaliste. Donc, ça prend pas de l'idéalisation, mais ça prend de l'admiration sur les choix et les réalisations. Donc, quand je regarde la manière que l'autre gère sa vie, là, je suis capable de me dire « Wow! Hey, elle fait des bons choix, elle réalise des belles choses. Ça, je suis fier de sa personne. Wow! Ça m'inspire. » Mais c'est pas la meilleure personne au monde.
Mm-hmm. Est-ce que l'amour passionnel peut, avec le temps, devenir un amour réaliste?
Oui, oui. C'est ça, ça peut se transformer.
C'est des phases, c'est pas coulé dans le béton en étant une chose
évoluer.
Et une autre.
Quoi. Ça peut.
Puis ça, c'est quelque chose, moi, je trouve. Tu sais, ton amoureux, ton amoureuse, il faut que tu l'admires. Puis en tant qu'amoureux, amoureuse, je dois donner le meilleur de moi-même pour que l'autre personne m'admire aussi. Puis tu sais, dans les couples, il y a beaucoup de jalousie ou de possessivité. Je trouve tellement... Comment dire? Si tu donnes le meilleur de toi-même, puis si t'es la meilleure personne pour ton amoureux, ton amoureuse, bien, s'il est pour aller ailleurs, tu sais, tu pourras rien y faire. Donc, arrête de t'inquiéter, puis arrête de d'être dans l'anxiété dans le moment présent. Tu risques de brimer la relation plus que...
Oui, mais c'est comme dire à quelqu'un qui souffre d'un trouble anxieux, ben arrête de stresser.
Oui, je sais.
Fait que tu sais, ça va juste le fait qu'il va se sentir pas compris. Tu dis à quelqu'un qui a un trouble alimentaire, ben arrête de trop manger.
C'est-tu quoi?
Quand quelqu'un est fâché, tu lui dis de se calmer.
T'as juste à te calmer. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne suggestion rationnelle et sécurisée. Mais pour une personne qui est insécure à l'intérieur d'elle, là, hey, c'est une tempête épouvantable. Donc moi, le conseil que je dirais à la personne, c'est commencer à observer la souffrance en agitation intérieure.
Et comment est-ce que... Parce que moi, c'est le père de mon fils à l'époque. J'étais anxieuse et tout ça. Puis pas par rapport à la jalousie et tout ça, mais tu sais, en général, là, pour le travail et tout. Puis il me dit, là, Mel, ici, maintenant, là, qu'est-ce que tu peux faire?
Oui.
Tu peux rien faire. Là, tu t'inquiètes pour le passé. Tu t'inquiètes pour le futur. Oui, oui. Tu peux rien faire en ce moment. Puis, tu sais, ça m'a vraiment ramené à faire... Hey, t'as bien raison. Donc, j'ai réalisé que je brisais beaucoup de beaux moments présents avec des choses du passé qui m'angoissaient ou des choses du futur qui risquent de ne même pas arriver.
Oui.
Donc, je passais ma vie à angoisser pour finalement pas vivre à 100% le moment présent. Mm-hmm. Donc, ça m'a ramené. Puis, depuis ce temps-là, on dirait que je vis go with the flow.
Oui, bien, c'est ça, une expérience de sécurisation. C'est, il y a quelqu'un qui est présent à nous, un peu comme le bon parent envers l'enfant qui fait un cauchemar, puis qui lui dit... Oh, c'est un gros cauchemar, ça, hein? Puis l'enfant va dire oui. Non, juste la validation, c'est la moitié de la tempête qui vient de partir.
Mm.
Puis là, la suite, c'est veux-tu que je reste avec toi le temps que tu te rendormes ou, là, ou le temps que ça te. Puis là, l'enfant, oui. Puis là, ça... il se rendort, c'est pas trop long.
Wow.
Fait que la validation, l'écoute, l'accueil, mais c'est pas quelque chose que le parent ou le conjoint peut faire, tu sais, seul. Il faut que la personne soit prête à accueillir l'exploration de son insécurité. Puis qu'elle accepte de prendre une part de responsabilité sur la suite de son insécurité.
Puis quand l'amour se mêle de partie, c'est pas toujours évident à comprendre, ça.
Non, non, puis c'est pas forcément non plus la job des des conjoints de jouer un rôle d'intervenant.
Non.
Ça demande un doigté, là.
Oui, c'est ça. Donc, tu conseillerais de consulter.
Bien sûr. Si vous avez besoin d'aide, ça dépasse vos...
Moi, j'ai des gens que je connais qui t'ont consulté, que je t'ai référé, puis qui sont vraiment satisfaits de tes services et de ta façon d'avoir abordé le...
L'échelle
Disney. Mais c'est vrai. Non, mais c'est important de le dire, je pense, quand c'est la vérité. Puis, t'as de la place encore, je pense.
Effectivement. Moi, je suis contre les listes d'attente, donc j'ai toujours de la place.
Ah, c'est bon.
Mais il y a être contre les listes d'attente et il y a être bon dans ce qu'on fait. Donc, ce qui provoque des listes d'attente, comment tu
c'est pas forcément ça, l'équilibre ou la demande réelle sur le marché, là.
Okay.
Depuis plusieurs années, les psychologues sont très en demande.
Oui.
Pour plusieurs raisons qui vont de la pathologie à la croissance personnelle.
Oui.
Donc, il y a plein de motifs de consultation, plein de demandes, puis on est vraiment pas en pénurie. Hein. Ça cogne à la porte systématiquement. Oui. Moi, j'ai à peu près 10 demandes de nouvelles consultations à chaque jour.
Mon Dieu.
Fait que là, je présente mes conditions de service, à quoi ça ressemble par courriel pour que les gens savent à quoi s'attendre. Puis il y en a que ça leur convient pas. Il y en a qui voudraient un psychologue un peu plus calme, un peu plus style Mais moi, je leur dis tout de suite que je vais être actif, je vais donner des
trucs,
des exercices. C'est ça. Puis ça tape ses nerfs à certaines personnes.
Ouais. Mais ça plaît à beaucoup d'autres.
Ouais. Hey, dans mon premier stage, là, quand j'étais au doctorat, on me dit « Tabarouette, tu parles donc bien, toi, comme psychologue. » Fait que la personne, elle voulait, elle, que de l'écoute dans les rencontres.
Ouais.
Puis je dis, bon, je suis pas le bon intervenant, je crois, pour...
Moi, tu vois, quand, les premières fois que j'ai consulté dans ma vie, j'étais avec un psychologue qui se mettait en arrière-plan. C'était une femme, là, elle était plus en arrière-plan, puis elle me renvoyait rarement la balle, puis ça me mettait en beau fusil. J'étais là, mais voyons, je viens ici, je dépense de l'argent pour pouvoir parler à moi-même. Mais au final, c'est un style de... C'est une approche, là, ça me permettait de faire du ping-pong avec mes propres idées, de me faire challenger au bon moment, mais j'avais quelque chose de plus actif, puis à ce moment-là, dans ma vie, j'étais pas assez conscient pour pouvoir comprendre que c'était une bonne façon quand même de faire. Fait que les deux peuvent coexister.
Hey, mais ça, c'est drôle. Moi, la seule fois que j'ai consulté, c'était pour de l'anxiété. Finalement, dans un couple, je pensais que j'étais parano, tu sais, mais finalement, en tout cas, finalement, je suis consulté pour rien parce que finalement, j'étais cocu pour vrai.
Oh. Ah, oui.
Et j'avais finalement raison.
Mais
la personne, la psychologue que je voyais, était un peu comme tu dis.
Mm-hmm.
Puis en lui parlant, je me mélangeais dans. Là, je
dans
savais.
Tes idées.
J'avais de la misère à me confier, puis à. Mm-hmm. C'était difficile.
Mais ce genre d'approche-là...
Ah, j'aime pas ça, moi, les consulter.
C'est ça, mais c'est dans l'approche psychodynamique, psychanalytique, puis ça peut être très, très bon. Il y a deux principes fondamentaux dans ce que vous décrivez. C'est la fonction contenance et l'association libre. Ça veut dire que le thérapeute, il est là pour contenir l'occasion de la personne pour explorer ses pensées. Puis l'association libre, c'est ne pas inférer en proposant des suggestions, du contenu, des choses, pour que la personne elle tourne dans sa blessure jusqu'à temps qu'elle découvre... quelque chose qui va lui permettre d'être autonome sur le plan intérieur. Sauf qu'il faudrait peut-être expliquer aux personnes que c'est ça le chemin.
Ben oui.
Mais si tu l'expliques, tu es en train de faire de l'inférence. Donc,
exactement.
Il y a beaucoup de personnes, ou de thérapeutes ou de collègues, moi, qui font cette approche-là encore. Puis ils reçoivent cette critique-là. Mais toutes les approches cliniques en psychologie ont toutes des défauts. Enfin.
Hmm.
Ça serait bien que vous trouviez le professionnel qui correspond À vos besoins. Ou à vos... Donc, ça demande un peu une connaissance de soi. Puis parfois, il faut investir dans une ou deux rencontres avec un thérapeute pour le savoir.
Parce que ça se magasine, un psychologue.
Ben oui.
Mais c'est comme la médication, tu sais. Il y a différentes molécules, que ce soit pour le TDAH, pour la dépression.
Oui.
Parfois, il faut en essayer plusieurs avant de trouver la bonne molécule faite pour vous. C'est la même chose avec un psychologue. Puis un psychologue qui, lui, ne peut pas prescrire de médicaments.
Non, c'est un acte médical.
OK.
Moi, je prescris certains devoirs.
Oui.
Mais pas des molécules pharmaceutiques. Ça, c'est un acte médical.
Ah, c'est les psychiatres qui font ça. C'est
exact. Ben, les médecins.
Oui, les médecins.
Les psychiatres, c'est un médecin spécialiste en psychiatrie.
OK.
Puis là, maintenant, il y a certaines super infirmières, puis des pharmaciens aussi, qui ont certaines molécules qui sont autorisées. Mais...
Puis toi, comment tu décrirais ton approche? Parce qu'on te reçoit depuis le début de la saison, puis on n'en a jamais vraiment parlé. Comment t'es, toi, en consultation?
Actif, comme il disait.
Moi, j'aurais le goût de dire que j'ai deux approches. J'ai l'approche holistique, intégratif et athéorique, basé sur les données probantes.
OK, ça, si t'avais l'expliquer.
En gros, j'ai étudié toutes les approches cliniques, moi, en psychologie. Pour être psychologue, il fallait en étudier au moins deux sur quatre. Là. Puis moi, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais parler la moitié du langage psychologique. Donc, je me suis formé à toutes les approches. Quand il y avait des cours optionnels puis des cours d'extra, là, je prenais ça.
Okay.
Donc, je voulais comprendre la psychologie et non pas... une branche ou deux branches de la psychologie. On appelle ça l'approche maintenant holistique intégrative. Ça veut dire que ça intègre des branches d'un petit peu partout. Là. C'est multiple.
D'accord.
Puis l'autre, qu'on appellerait athéorique, basé sur les données probantes, c'est quand on regarde les données scientifiques, là, qu'est-ce qu'ils nous disent qui serait recommandé, les bonnes pratiques là-dessus? Mais pour être capable d'aller vers ces données-là scientifiques, parfois, il faut laisser de côté nos préférences là, des approches cliniques. Là. Donc, se promener entre ces deux modèles-là.
Okay.
Et donc, comme tu es reconnu là, par
l'Ordre des psychologues
L'Ordre
du Québec,
des psychologues, tu peux émettre des reçus d'assurance.
Exact. Il
n'y
a même pas de taxe parce que au niveau de la loi, des reçus de psychologues, c'est considéré comme des frais de santé, donc non taxables.
Docteur Simon, je pense qu'on va déjà faire la pause puisqu'on n'a pas encore abordé notre sujet principal.
Surprenant.
C'est toujours ça.
Surprenant.
Hein?
Toujours ça avec Docteur Simon, psychologue. Merci beaucoup à tous d'être à l'écoute. Et on est de retour après la pause. Vous écoutez La Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X.
La Sex.
La Sexploratrice.
Exploratrice. Avec Mel Trudel.
Radio X.
De retour avec la Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X. Continuez de donner en grand nombre au 418-670-9098 pour le sapin. Le sapin Radio X avec un don de 10$. Ça vous permettra d'illuminer 5 lumières dans le magnifique gros sapin qui est érigé aux Galeries de Capital. Et ça, pour une bonne cause. Donc, c'est pour la Fondation du CHU de Québec, les enfants malades et tout petits qui doivent se faire traiter, finalement recevoir des traitements dans un département oncologique destiné aux adultes présentement. Donc, on sait, les enfants malades ou pas, ça veut jouer, ça veut s'amuser, ça veut voir la vie colorée.
Ouais, tout à
donc,
fait.
C'est une superbe cause. Alors, merci beaucoup de donner en si grand nombre. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais en amour, on parle pas tous le même langage. Hein? C'est un peu comme... ça peut être carrément comme deux étrangers qui parlent deux langues complètement différentes là, si on n'a pas le même langage amoureux que notre conjoint ou notre conjointe. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai découvert très tard dans la vie. Ça fait que quelques années que j'ai pris connaissance des langages amoureux et j'ai l'impression que ça aurait pu m'aider dans certains couples de connaître le langage amoureux de mon conjoint et qu'ils connaissent le mien aussi.
Oui.
Parce que notre langage amoureux, en fait, c'est de la façon dont on aimerait recevoir l'amour et de notre façon de partager notre amour, Dr. Simard.
Oui, bien, on va toujours considérer normal notre préférence ou notre compréhension de ce qui a de la valeur en amour. Fait que tout dépendant comment vous l'avez appris ou encodé ou comment vous l'avez reçu étant jeune, bien, ça va créer des croyances normatives. Donc, c'est ce que vous allez penser qui est normal. Puis avec les croyances normatives, c'est comme des drivers en arrière de notre tête là, qui fait qu'on va prendre des décisions automatiques basées là-dessus. Fait que dans le feu roulant de la vie conjugale, quand on est stressé, qu'on est pressé, on va toujours trouver normal notre vision des choses.
On va se refléter.
C'est ça. Mais l'autre n'est pas forcément dans le même genre de croyance normative. Fait que là, ça serait peut-être bien de savoir, avant d'essayer d'être d'accord ou d'être bilingue, il faudrait peut-être reconnaître qu'on parle deux langues distinctes.
Oui. Donc, on aurait 5 langages amoureux. Est-ce qu'il est possible qu'on en possède plus qu'un?
Oui. Dans le fond, on peut posséder, selon la théorie là, des langages de l'amour, il y en a 5 dans la... théorie. Mais moi, j'en ajoute en clinique, j'en ajoute quelques autres. Donc, restons dans la simplicité pour l'étude d'aujourd'hui, pour les propos. Mais Si on faisait la liste, on pourrait dire que la théorie retient les cadeaux matériels, les services rendus, le partage de moments de qualité, les paroles valorisantes et le contact physique. Et on peut apprécier et éprouver de l'amour pour les cinq. Mais moi, en clinique, pour aider les gens, ce que je fais en consultation, c'est que j'énonce les choses comme ça au couple. Puis là, je leur demande, c'est lequel vos deux préférés? Que vous vous dites, là, vos deux préférés qui vous fait sentir le plus fort l'amour.
Toi, Max, c'est quoi?
Pour moi, c'est vraiment les paroles valorisantes puis les contacts physiques, je pense.
Ouais, ça ressemble moi, ça serait comme Max.
Ouais, puis toi?
J'hésite, là. Moi, c'est sûr, partage de moments de qualité, certainement. Paroles valorisantes. Bien, contact physique aussi. Dans le fond, ce serait mes trois.
Ben, tu vois, okay. En clinique, moi, je propose maintenant aux gens qui disent ça, genre tes trois, là, je dis, OK, classons-les toutes, voilà, dans l'ordre de vos préférences pour savoir c'est lequel vos préférés, lequel vos moins préférés. Et c'est en ce sens-là, pour préparer l'émission, que j'ai fait un sondage.
Oui, un sondage très intéressant qu'on a partagé dans nos communautés.
C'est vrai.
J'ai fait un sondage qui a été répondu par 271 personnes.
Oh là là!
Donc, on a des beaux chiffres là, à parler aujourd'hui.
Est-ce que généralement, quand tu prends cette approche-là avec tes clients en consultation, les gens sont à même de pouvoir te dire ce qu'ils ont comme langage amoureux?
Oui, oui. Avec le descriptif que je vais élaborer, s'ils ont des questions, ils parviennent bien souvent à l'identifier. Puis ce que je trouve formidable, moi, c'est quand les deux mettent le numéro un à la même place. Ça, c'est comme moi, j'appelle ça un langage refuge. Fait qu'en situation de conflit, pour se démêler, ils ont juste à faire quelque chose en lien avec leur premier langage amoureux. Fait que si les deux aiment les services rendus, pour se sortir du conflit, il faut qu'il y en ait un des deux qui commence à dire « Comment je pourrais aider l'autre en lui rendant... un... » Puis là, oups, ah, ça vient toucher l'autre. Ah oui, c'est vrai, c'est mon premier langage amoureux. Puis là, le climat de confiance repart. Mais ce qui devient difficile, c'est quand il y a un écart sur le plan clinique. Admettons, monsieur aime le toucher et madame aime les cadeaux. Donc là, en situation de conflit, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on pourrait dire qu'il y a une personne qui va émettre des plaintes ou des mécontentements en disant « Tu m'achètes jamais rien! » Puis l'autre dit « Ouais, mais moi, tu me touches plus! »
Oui, puis en situation de conflit, on veut que l'autre nous comprenne. On ne veut pas nécessairement se mettre à la place de l'autre.
Ouais. Fait que là, les gens, ils essayent de trouver un compromis dans le milieu.
Là, arrêtez d'accuser l'autre. Tu sais, peut-être plus parler au « je ». Je suis déçu que je n'ai pas de cadeau ou je suis déçu que tu ne me touches pas.
Mais parler au jeu, que... pas une forme d'accusation aussi.
Ben, plutôt que de dire tu me touches pas.
Il y a des jeux tyranniques.
Je suis déçu. Effectivement. Ça me déçoit de ne pas avoir plus de contact avec toi.
Ça serait l'expression d'un mécontentement. Ce serait très bien, mais je reviendrai sur la manière de faire une bonne demande.
Vas-y donc.
On parle d'un besoin. J'ai besoin. Donc, pas j'aimerais. Hein,
besoin?
Non, j'aurais besoin. C'est conditionnel, ça. J'aurais. Fait que j'ai besoin, ça veut dire que c'est sérieux. Il faut faire un travail sur soi de connaissance de ses besoins. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Fait que j'ai besoin de recevoir des cadeaux pour me sentir aimé. As-tu compris? Ça, c'est les trois étapes. J'ai besoin, un élément ciblable, mesurable, concret, et une validation. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord? As-tu une contre-offre? Qu'est-ce que tu as compris?
On inclut l'autre.
Oui.
Quelqu'un qui est très matérialiste, hein, qui veut être avec quelqu'un qui a une grosse maison, qui veut avoir des cadeaux tout le temps, comment est-ce qu'on fait la différence entre son langage amoureux ou c'est une personne superficielle qui veut juste des biens matériels?
Bon, c'est facile. On a juste à arrêter de juger les gens qui ont cette préférence amoureuse-là.
Mais oui, oui. Très facile.
C'est tout. Merci. Bonsoir.
C'est pas superficiel. C'est un langage qui est peut-être plus loin de l'intimité. Mais par contre, qui est aussi valable.
En fait, c'est ça, je pense pas que c'est superficiel. Je pense que ce langage-là, l'autre personne veut juste qu'on pense à elle quand on n'est pas là. C'est juste ça, dans le fond.
Mais en fait, moi, ce qui me dérange un peu, c'est les gens qui, dans leurs critères, c'est faut qu'il y ait un gros char, une grosse maison, une grosse job, avant même de connaître la personne. Premièrement, peux-tu exiger de l'autre quelque chose que tu es capable d'offrir toi-même?
Oui, ben on peut pas demander aux gens d'avoir de la profondeur s'ils n'en ont pas. Oui,
c'est ça.
Ça, je veux dire, il y en a qui sont comme ça, qui vivent en surface, qui sont bien de même, qu'on peut pas leur demander d'aller lire un livre.
C'est pour ça, moi, que j'ai essayé de faire une mise à jour un peu sur la théorie des langages de l'amour, puis que je les classe, moi, spécifiquement, dans un ordre spécifique. J'ai classe du plus objectif, externe, jusqu'au plus intime, subjectif. Ça ne veut pas dire du meilleur au pire ou du pire au meilleur, là, mais les cadeaux matériels, c'est ce qu'il y a de plus loin de l'intimité. Ensuite, les services, le verbe faire. Après ça, les moments de qualité partagés ensemble. Après ça, les paroles valorisantes. Puis ensuite, le toucher. Le toucher, on est rendu proche en maudit. Hein? Il y a même des gens qui font des touchers intérieurs.
Ça, cette théorie-là, on trouve ça sur ton site?
Je le présente dans mes formations et dans mes cliniques. C'est comme une mise à jour du modèle des langages de l'amour.
Est-ce que ça fait partie de ton programme? Là, que...
Oui.
OK. Peux-tu nous en parler un petit peu, tant qu'à y être, de ton programme?
Ah, mais c'est des programmes de formation qui visent à faire la synthèse des connaissances généralement reconnues. Là. Puis tout ce que j'expliquerai à mes gens, à mes clients en consultation, je l'ai déjà synthétisé puis filmé dans une formation web.
OK.
Donc, ça, Paul, les cinq langages de l'amour, t'as dit que t'en as un peu plus en pratique. Là. Oui. C'est-tu de la psychopop ou c'est vraiment appuyé sur des vrais concepts psychologiques?
Tu as remarqué que j'ai dit le mot « modèle » tout à l'heure? Fait que c'est la différence entre une théorie et un modèle. C'est qu'une théorie, c'est basé sur des fondements empiriques, vérifiables. C'est comme un peu une loi sur le fonctionnement. Mais en psychologie, on parle souvent plus d'un modèle suggestif. Donc, c'est moins valide. Ça ne tient pas la route systématique. Comme par exemple, il y aurait probablement des sous-catégories qui sont absentes de cette nomenclature-là.
Comment on ferait pour rendre ces modèles-là comme des théories empiriques? Comment on...
Ah, il faudrait faire des protocoles d'études un peu plus rigoureux, plus approfondis, sur des gros échantillons. Puis il faudrait définir c'est quoi l'amour. Puis là, juste là, on a un problème scientifique.
Ouais, c'est impossible, on peut pas.
Parce que c'est un sentiment.
Ouais.
Donc, un sentiment. Oh, petit truc mémotechnique. Donc, étant donné qu'on fait de l'étude de sentiments, c'est souvent auto-rapporté en plus. Donc, je pense ça sur moi. Il faudrait comparer avec le fait que les gens sont très poche à évaluer leur propre feeling, leur propre perception, leurs propres besoins. Parce qu'ils sont envahis par le stress. Il y a des biais cognitifs qui apparaissent. Il y a des préférences. Oui?
OK. Puis, si on y va avec les réponses reçues de tes
sondages.
Oui, c'est ça, des participants en sondage. Est-ce qu'on sait s'il y a une majorité d'hommes ou de femmes?
Bien, c'est sûr que ma composition de mon échantillon est biaisée. Donc, d'après moi, si je me fie à mes stats, là, j'ai à peu près une audience sur les réseaux sociaux de 90 % de femmes.
Oh!
Donc, il est fort probable que les réponses d'aujourd'hui soient teintées par une couleur féminine.
Messieurs, ça vaut la peine de vous intéresser à ça quand même. Je pense qu'il y a même des petits tests qu'on peut faire ici et là. Est-ce que sur ton site, on peut le faire, ça? Pour découvrir son langage amoureux, celui de son conjoint et sa conjointe.
Exact.
Ça peut être un petit exercice intéressant à faire en couple.
Oui, oui, absolument. Moi, je l'ai fait avec ma blonde, puis ça nous a vraiment aidé. Ça nous a vraiment, vraiment aidé à comprendre les besoins de l'autre, tout simplement.
Bien,
c'est
bien
juste
ça. Absolument.
Oui.
Donc, on y va avec les réponses.
Yes. Quand j'ai demandé aux gens de classer, là, c'est lequel votre préféré? C'est lequel le numéro 2 selon vous? C'est lequel le numéro 3? Jusqu'à 5. Donc, il y a deux éléments qui ressortent de manière très claire du sondage, c'est la préférence des gens et le moins préféré des gens. Ça, c'est les deux des affaires vraiment claires. Donc, le numéro un, surprise pour tous, le langage de l'amour que les gens préféreraient à... C'est quoi le chiffre? C'est 61%. C'est le partage de moments de qualité. Donc, les gens ont choisi en choix numéro un le partage de moments de qualité. Et le dernier, celui qui est le moins valorisé ou le plus souvent choisi en dernier, on va dire, c'est les cadeaux matériels. 85 % des gens l'ont placé en dernier.
Mais un moment de qualité, mettons, où j'apporte ma blonde au cinéma, où je lui achète quelque chose,
ça
jumelle aussi. OK, c'est un service rendu. OK, mais tout ça, c'est très confondant.
Ah, c'est justement pour ça que scientifiquement, c'est pas très valide puis qu'on parle d'un modèle. Il y a des croisements.
C'est ça, exact.
Il y a des compréhensions. Mais pour être capable de justement voir le mix de tout ça, là, je ne me suis pas arrêté seulement à la réponse brute. Hein.
D'accord.
J'ai mis ça dans le malaxeur des chiffres scientifiques.
Oh.
Puis là, j'ai pondéré les réponses. C'est-à-dire que j'ai fait comme une espèce de grille. J'ai attribué 5 points à ceux qui mettaient le code amoureux en première position, 4 points pour le deuxième, 3 points pour le
deuxième. T'as suranalysé le...
C'est ça, j'ai poussé un peu la machine en donnant de la valeur pour la place mise. Puis là, à la fin de tout ça, ça nous donne une représentation beaucoup plus claire du poids, on va dire, du langage amoureux de chacun.
Et puis les gens ont vraiment beaucoup participé. Là. Je vois 673 commentaires en lien avec...
Exact. Fait que j'ai eu beaucoup de commentaires ensuite sur chacun des styles amoureux. Puis j'ai fait une synthèse. Vous m'avez fait travailler fort. Maxime, il est où mon chèque d'ailleurs? Il est dans...
Ah, il est dans mal, comme d'habitude.
Il est dans mal,
tu l'as pas encore reçu?
Non.
Je vais appeler Post-Canada tantôt. Là.
Fait que tu sais, ça nous donne, une fois pondéré là, dans mon système de pointage, ça reste quand même les partages de moments de qualité qui sont les plus populaires et ça reste quand même les cadeaux qui sont les moins populaires.
Si tu avais à définir un moment de qualité, c'est quoi?
Bien, selon les 126 réponses que j'ai obtenues, la synthèse, ça serait en 4 points, ça serait... l'importance du temps et de l'attention accordée, l'absence de jugement, le bien-être mental, mettons, rire ensemble, relaxer, avoir du plaisir, faire des souvenirs significatifs, puis une espèce de qualité de présence réelle où on se déconnecte des téléphones.
Ça, là, je vous le conseille tellement de le faire. Au moins un 24 heures. Rangez votre téléphone. Et si c'est possible, un week-end complet, là.
Jamais!
Vous rangez votre téléphone. Ah, mon Dieu, que ça fait du bien!
Non, mais comment je vais faire pour répondre à mes courriels?
C'est justement, décroche. Ben, vis le moment présent, décroche, puis...
Mais j'ai commencé à faire ça depuis un bout, moi. Je me mets en mode avion.
Ouais, exactement.
Laisse le téléphone sur la table, puis advienne que pourra.
Comme... Ah, ça fait du
J'espère
bien.
Que personne va mourir.
Comme tu vois, ma réaction, moi, c'est pas mon numéro un, hein, les partages de moments de qualité personnellement.
Non, ça serait quoi, toi, ton langage amoureux, Paul?
C'est le deuxième le plus populaire, en
paroles
réalité.
Paroles valorisantes.
Ouais, c'est les paroles valorisantes, parce que moi, j'adore parler.
Moi aussi,
j'adore
je suis très là-dedans.
Tu sais, être compris, comprendre l'autre, discuter. Moi, la gueule m'arrête pas, là. Fait que
ouais.
C'est très important. Si j'avais une conjointe qui parlait pas, qui textait pas, qui échange, je capoterais ma vie.
Communication.
Oui, fait que là-dedans,
à côté.
Ouais, là-dedans, c'est la reconnaissance des qualités, l'encouragement, du soutien, dire je t'aime, puis que ça se fasse de manière sincère et spontanée.
Le fameux je t'aime.
Oui.
En début de relation, là,
oui.
Quand c'est intense et passionnel, là,
oui.
Des fois, là, on peut avoir l'impression de se retenir de le dire.
Oui.
Là, on dit je t'adore. Ou, tu sais,
bon, on invente des petits mots.
Est-ce qu'il y a, selon toi, une période minimum avant de dire le fameux « je t'aime » ou on y va comme on sent?
Il n'y a pas de balise universelle là-dessus.
Non.
Parce que ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde.
C'est ça.
Effectivement.
Puis il y a des gens qui ont besoin de le dire parce que ça les réconforte eux-mêmes. Puis il y en a qui ont besoin de le dire parce qu'ils l'éprouvent envers l'autre. Donc, ça ne veut pas dire la même chose.
Moi, c'est drôle parce qu'avec les membres de ma famille, mes amis, tout ça, c'est « je t'aime » à côté. Puis je leur dis là tout le temps. Là, quand j'aime quelqu'un, là, hein, Max, toi, je te le dis souvent, « je t'aime
oui. ».
J'aime, chaque fois que je parle avec mon ami Sonia au téléphone, « OK, je t'aime ».
Tu ne m'as jamais dit ça.
Puis...
Oh!
J'ai souvent déjà dit non!
Bon, ben, vos jambes, les couteaux vont le bas.
C'est ça qu'on a quand même un volet professionnel aussi. On est chummy body, mais professionnel en même temps.
Ouais.
C'est peut-être ça. Mais j'ai quand même le je t'aime facile avec des gens que j'apprécie beaucoup. Mais dès que c'est en relation, hey, là, c'est comme quand je vais le dire, là, c'est que
parce
ça
que ça veut dire autre chose.
Et pourtant, c'est les mêmes mots.
Un je t'aime amical et un je t'aime amoureux, c'est pas la même chose.
Ouais, mais je trouve ça quand même très important. Quand je le dis à quelqu'un, c'est que je le ressens. Tu sais, je veux dire, c'est je veux que la personne le sente. Tu sais, je le dis pas pour le fun.
Ouais.
J'ai discuté de ça avec plusieurs clients, même cette semaine, où des gens qui me disaient en consultation qu'ils changent les appellations qu'ils donnent en fonction des relations. Comme, mettons, les enfants. Ça va être des petits noms, des chouchous, des titoutoudous. Puis, ils gardaient le « je t'aime » les gens pour le conjoint.
Ouais, parce que c'est des mots qui sont lourds de sens pour certaines personnes.
Ouais.
Puis, on dirait aussi que c'est dans la formulation. C'est pas Dédé qui disait « je t'aime beaucoup ». On dirait que ça fait un peu moins vrai.
C'est
aussi,
vrai.
Quand, mettons, ta blonde te dit « je t'aime », tu réponds « moi aussi ». On dirait que t'es un peu moins investi dans l'amour.
Oui,
alors, il y a plein de codes.
« Je t'aime bien ». Ouais,
ben c'est
ça change
tout.
C'est ça. Fait que pour quelqu'un, moi, c'est mon numéro un, là, le langage, les paroles valorisantes. Ça veut dire que j'y donne beaucoup d'importance au choix de mots. Mais toi, tu le mettrais pas dans ton numéro un?
Ouais.
Toi, c'est quoi? C'est les partages de qualité, t'avais dit, toi.
Moment de qualité. Ben les paroles valorisantes aussi, là.
Mais quand c'est notre numéro un, des fois, on est peut-être un peu plus exigeant sur certaines nuances. Puis même chose pour les cadeaux matériels.
Totalement. Puis moi aussi, mon numéro un, c'est les paroles valorisantes. Est-ce que toi, ça t'apporte anxiété à l'occasion quand t'as l'impression de pas être compris ou que ta partenaire t'apporte pas les paroles que t'aimerais recevoir?
Oui. C'est exactement ça.
Puis comment tu vis avec ça?
Ben moi, je suis chanceux. Hein? Je parle de ça tous les jours, la gestion de l'anxiété. Fait que je suis rendu bien équipé.
Un vrai pro.
Fait que je peux... Oui, mais parfois, se l'appliquer à soi-même, ça peut être quand même différent.
Oui, c'est vrai. C'est qu'à un moment donné, on arrive sur une limite. C'est pas à être cordonnier mal chaussé. Là. C'est qu'en réalité, on est tous fragiles. Et si on dépasse un certain seuil de fragilité, à un moment donné, pouf, ça craque. Mais la majorité du temps, moi, je pense que je suis quand même habile à le gérer. Puis c'est ça, la compétence que je veux transmettre. Et ça, il arrive parfois que j'aille moi aussi me faire ressourcer avec mes aidants qui me rappellent comment me sécuriser sur des sujets qui me fragilisent. Puis là, ça guérit encore plus ou ça augmente ma compétence.
Oui, parce qu'on a tous, même si tu as des capacités hors normes en termes de psychologie, on a tous un mur d'objectivité qu'on n'est pas capable de surpasser à l'occasion.
Exact, un angle mort.
Exact.
Exact. OK, donc les paroles valorisantes, on parle de reconnaissance et qualité, encouragement et soutien, exprimer l'amour et comme tu le disais, sincérité et spontanéité.
Yes.
Maintenant, ensuite, les contacts physiques.
Oui, c'est le troisième. Puis le contact physique, là, dans les premiers tests, là, quand on demandait aux gens de le placer quelque part, c'est celui qui a été le plus distribué de manière générale sur tous les styles. Fait qu'il n'a jamais été en top choix numéro un d'une place numéro un, place numéro deux, place numéro quatre. Donc, il est dilué à travers. Ça veut dire que le contact physique est important pour beaucoup de gens. On pourrait dire qu'il tient une place centrale.
Mais pas au même niveau.
Peut-être pas prioritaire, mais central.
Mais quand on parle de contact physique, est-ce qu'on parle de relations sexuelles ou on parle de contact, de toucher, d'affection? Là?
Sur la synthèse des 131 commentaires que j'ai eus liés au contact physique, il était question là, d'une grande variété de gestes. Là. Donc, ça peut aller de la sexualité aux étreintes, aux colleux, aux baisers. C'est pas juste faire l'amour, là.
Est-ce que c'est vrai que le baiser, selon où il est donné, tout ça, il y a comme une signification? Baiser dans le front, c'est plus
paternel,
un baiser... Comment?
C'est parental, non?
Ouais.
Protecteur.
Ouais,
protecteur,
fait, ouais.
Exactement. Tu sais, on voyait différents types de baisers. Là. Est-ce que toi, tu as une théorie là-dessus?
Oui.
Ah ouais?
La théorie, ça serait, faut pas croire tout ce que les gens en synergologie disent.
J'adore ta théorie.
Tu dois pas être ami ben avec Manuel Constant, synergologue, toi.
Non, non. C'est parce que je trouve que c'est très intéressant. T'sais, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on parle ici d'une modélisation avec peu de viabilité scientifique, parce que les concepts de base sont mal définis. Bien, en synergologie, c'est souvent la même chose. C'est qu'il y a beaucoup de trucs qui sont intéressants en synergologie, mais est où la limite où ce qu'on dit « wow, là, wow, ça dérape à partir de là ». Et malheureusement, en synergologie, c'est qu'au début de l'apparition de ça, il y a eu des premières études scientifiques qui ont dit que ça marchait, puis la suite, dans les décennies suivantes, a démontré que ça n'est pas la route, finalement, avec les re-études, re-vérifications.
Mais
si les gens gardent les premières études des années 70 comme référence...
Avec Philippe Turchet.
70 et 80, bien, ils ont 30 ans de recherche scientifique qui dit que ça ne marche pas, là, qu'eux autres, ils oublient d'utiliser. Là. Fait que souvent, quand on n'a pas un background de connaissances scientifiques avancées, ça fait en sorte qu'on peut accepter des prémices comme si elles étaient vraies, mais qu'en réalité, c'est pas valide.
Puis j'ai l'impression qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, les rencontres virtuelles et tout ça, je pense qu'on se tient pas nécessairement de la même façon devant une caméra que devant un humain.
Non, je pense qu'il y a de l'impact, ça a de l'impact.
Oui.
Mais de là à mettre un manuel diagnostic de si t'as mal au coude gauche, ça veut dire que telle affaire, ça, c'est pas scientifiquement valide.
Puis lorsqu'on parle des langages amoureux, là, pour revenir à ça, disons que moi, ma conjointe a le contact physique en premier, puis moi, c'est mon dernier. Donc, nécessairement, c'est pas mon réflexe de donner ça à quelqu'un d'autre. Comment je ferais pour apprendre ce langage-là? Est-ce que ça s'apprend?
Oui. Ça va s'apprendre si vous vous souvenez que bientôt, ça va être à votre tour, mais que vous êtes prêt à être frustré pour que votre partenaire soit heureux.
Donc, je donne pour recevoir.
Ouais, fait que dans le fond, les couples heureux, là, ils font pas une négociation pour arriver à mi-chemin, à un accord sur les langages amoureux. Ils alternent de qui on s'occupe. Comme par exemple, il faudrait que toi, tu ailles prendre soin de son langage amoureux, de sa manière. Puis là, pendant que tu prends soin d'elle, ton partenaire, elle va se dire « Hey, wow, c'est formidable d'être en relation avec cet homme-là. Ça me fait tellement du bien quand il vient me prendre soin. Moi aussi, je veux prendre soin de lui de sa manière.
»
Puis là, elle va venir prendre soin de ton code amoureux, normalement. Tu vas y avoir expliqué comment faire. Puis là, toi, tu vas l'apprécier. Parce que là, elle vient prendre soin. Mais là, toi, tu vas dire, wow, je veux pas la perdre. C'est super qu'elle vienne me soigner ou prendre soin de mon amour. Fait que moi aussi, je vais y redonner l'appareil. Puis là, les gens, ils alternent. On s'occupe de tout le monde, mais pas en même temps.
Si t'arroses pas ton jardin, il donnera pas de légumes.
Exact. C'est à ne pas négliger de connaître ton langage amoureux connaître celui de sa conjointe, ton conjointe. Faites-le, l'exercice. C'est vraiment intéressant.
Tu veux-tu qu'on clenche les deux derniers?
On y va. Oui, on clenche ça parce qu'il reste pas beaucoup de temps.
Service rendu. On a eu 141 commentaires, mais en synthèse, ce que les gens retiennent dans le service rendu en quatrième place, c'est répondre à des besoins concrets et spécifiques, alléger la charge mentale, partager de manière équitable la responsabilité. Puis c'est une démonstration d'engagement, ça, rendre un service.
Mm-hmm.
Hey, je te facilite la vie.
Oui.
Je suis là pour toi.
Ouais, j'ai payé les assurances à ta place.
Moi, ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir, mais qui me rend un peu mal à l'aise aussi, parfois.
Uh-huh.
On dirait que quand on me rend un service, je me sens toujours redevable.
Parce que peut-être que tu donnes beaucoup de services aux autres, puis tu as l'impression que inconsciemment c'est ta place de faire ça aux autres, mais quand on te le fait à toi,
moi, je pense juste que c'est parce que c'est pas dans ses priorités. Fait que là, on s'éloigne. Tu sais, tout à l'heure, je vous ai dit que je les avais classés là, dans un certain ordre, là, du plus objectif au plus subjectif.
Oui.
Bon, mais Mélanie est quand même très proche des intimes, subjectifs, internes. Fait que possiblement que ton malaise y apparaît avec les services et encore plus avec les cadeaux matériels.
Mais j'adore offrir des cadeaux.
Oui.
J'adore rendre des services, mais quand j'en reçois, je ressens un profond malaise.
Ouais, c'est comme mais si c'est-tu ça... parce qu'elle donne toujours?
Non.
Pourquoi?
C'est peut-être parce que ça déclenche en dedans de toi une espèce d'impression.
Puis mon fils m'a partagé la même chose récemment.
Peur de devoir quelque chose en échange.
Ouais,
puis c'est parmi les 146 commentaires reliés au dernier langage amoureux, là, les cadeaux matériels. Ce qui est beaucoup ressorti dans les commentaires des gens, c'était que Les gens pensent que c'est une preuve d'amour conditionnelle, un cadeau. Ils craignent d'être manipulés ou achetés avec le cadeau. Fait que ça déclenche ce qu'on appellerait une espèce de dette émotionnelle. C'est, on pourrait faire le lien avec les gens qui détestent se faire payer la première date au restaurant parce que là, ils se sentent redevables. Puis ils veulent pas se sentir redevables sur une première date avec la personne.
Ouais.
Fait que là, ils disent non, je vais payer ma partie. Mais en faisant ça, le signal qu'on envoie à la première date, c'est je ne vais pas me mélanger avec toi. Fait que ça peut scraper la magie du moment. Juste parce que vous êtes mal à l'aise, je veux pas me mélanger, je veux rien te devoir.
Mais c'est surtout, en fait, parce que c'est ça, mon jeune garçon m'a partagé la même chose. Il dit, maman, il dit, quand je reçois un cadeau, je sais pas comment réagir, je suis mal à l'aise, puis je sais pas. Il dit, j'ai l'impression que si je dis merci, j'ai l'air d'en faire trop. Puis c'est ça aussi que je ressens, en fait. Ben, c'est comme, hey, ben merci, mais...
Moi, ça arrive que des gens me fassent des cadeaux en thérapie. Je pourrais peut-être te donner ma recette pour lui... proposer. On n'a pas le droit d'accepter des cadeaux de valeur immense. Puis ça arrive. Donc, un jour, il y a quelqu'un qui me donne une bouteille de vin pour célébrer la fin de son suivi psychologique. Puis là, je regarde la bouteille, je me dis, moi, je ne suis pas connaisseur en bouteille de vin, là, mais quelque chose me dit que ça vaut cher, là, cette bouteille-là. La personne dit, oui, elle vaut 30 000 piastres. C'est un cadeau qui a été donné par mon grand-père à mon père, qu'il me l'a donné. Puis tout ça. Puis je voulais
30 000.
Bon, attends, c'est une blague, là, tu racontes-là?
Non, je remixe des histoires ensemble pour protéger mon client, clients. Mais la personne, elle me dit, tiens, je te le donne. Puis là, je dis, waouh, c'est un gros cadeau. Fait que là, je mets ça sur mon petit bureau pendant la rencontre. Puis là, on parle. Puis là, je dis, à la fin de la rencontre, je dis, fait que dans le fond, tu es en train de me dire que ton cadeau, là, c'est pour que tu es reconnaissant, que tu apprécies les services, puis c'est pour ça que tu veux me donner le cadeau. Puis là, la personne dit, oui, c'est vraiment ça. Je dis, ah, OK. Fait que dans le fond, je vais te dire que je vais prendre l'amour que tu es en train d'essayer de me donner ou la reconnaissance, l'appréciation. Donc là, je fais le geste, là, comme si j'extirpais du cadeau l'amour, puis je le place dans mon cœur. Mais l'objet physique, je vais te le redonner par contre. Fait que là, j'y redonne la bouteille, puis je refais le signe. Mais je garde l'amour, par exemple, là, je m'amince mon cœur. En tout cas, je comprends que tu es vraiment satisfait, puis tout ça. Puis il dit, ah, mais là, ouais, OK. Il a fini par faire le chemin. Là,
mais c'est ça.
C'est
peut
plus doux
mal...
que dire non.
Ouais.
Parce que moi, je sais refuser des cadeaux immodérés. Mais quand c'est des cadeaux modérés, je vais faire un peu la même chose. Moi, mon père, mettons, je me souviens, il y a quelques années, m'avait donné une carte de Noël dans laquelle c'était marqué « Je t'aime, mon fils. Je suis fier de toi. » Puis là, je lis la lettre. Puis là, j'ai dit, « En tout cas, je comprends que tu m'aimes. Je comprends. » Tu sais, je fais comme une espèce de résumé de ce qu'il y a de beau. Puis j'y fais le même geste. Je place ça dans mon cœur. Puis là, je valide avec lui. Es-tu d'accord? T'sais, on est d'accord, là, j'ai compris que tu me donnes de l'amour et tout ça. Puis il dit oui, mon fils. Je dis parfait. J'ai pogné la carte, désacré dans le sac de poubelle avec les autres cadeaux de Noël. Puis il dit hein, ce que tu fais là? J'ai dit hey, on vient de convenir que j'avais compris que la carte était porteuse d'amour. Mais ce n'était
ben
pas.
Oui, mais là,
c'est
pas. C'est un peu intense ton affaire. Là. Tu l'as jeté dans sa face.
Oui, oui. Ben oui. Parce que la carte en elle-même n'avait pas de valeur.
Mais les souvenirs.
C'est le message porté par la carte.
Ouais, ben, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus.
Je suis incapable de jeter des cartes d'anniversaire ou des cartes de vœux de mes parents ou de ma famille proche.
Libère-toi.
Ah, incapable.
Moi, je suis un peu comme Paul là-dessus. Là. Ben, je les jette pas dans leur face.
J'en ai une là, dans ma voiture. Là, on est allé à une fête. Bon, on s'est sorti une carte, tout ça. Et dans ma voiture, là, en tout cas, bref, faudrait que j'arrange, mais je suis incapable d'acheter.
Mais c'est un fonctionnement intuitif, là. T'sais, tout le monde, à quelque part, veut tisser des liens interpersonnels, puis t'as vu la réaction que ça l'a fait intérieurement quand j'ai dit, puis moi, j'ai jeté la carte de poubelle, tu sais, dans
le chamboulé.
Il y a beaucoup d'auditeurs.
Moi, ça m'aurait chamboulé.
Ben oui, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont dire, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est parce que là, vous échappez le fait que j'avais pris soin juste avant de dire, j'ai compris que là-dedans, on est d'accord qu'on a une relation de confiance, on s'apprécie tout ça. Fait extirper de l'objet l'appréciation et l'amour, ça permet ensuite de s'affranchir peut-être de l'objet.
Tu avais préparé le terrain, autrement dit.
Oui, mais moi, je fais ça tout le temps.
Est-ce qu'il y a des gens qui concevoient les cadeaux comme étant une dette émotionnelle, mais est-ce qu'il y en a qui voient ça comme un investissement émotionnel?
Oui, c'est là où ça serait important de parler de culture dans les langages amoureux. Parce que, admettons qu'on est dans une culture où on peut avoir faim. Hein? On peut souvent être dans la famine. On peut manquer d'argent pour s'abrier, manteau d'hiver, puis tout ça. Donc, dans une culture où ça serait beaucoup plus difficile, on serait pris avec des enjeux de stress et de survie, il est possible que les gens valorisent beaucoup plus les cadeaux que les moments de qualité partagés ensemble.
Ouais.
Donc, parce que l'interprétation, moi, que je ferais des données qui a été collecté, c'est que si dans notre société, c'est tellement important ou valoriser les moments de qualité partagés ensemble, c'est qu'on est rendu dans une culture de confort pour apprécier des subtilités affectives.
Tellement.
alors que moi, je vois d'autres personnes qui arrivent de d'autres pays, parfois, là, qui ont vécu des guerres, qui ont vécu des choses. Hey, ils s'en foutent des moments de qualité. Même, ils communiquent pas beaucoup non plus.
Ouais.
Non. Donc, ils vont aller vers des marqueurs d'amour beaucoup plus pratico-pratiques.
Essentiel.
Exact.
Je t'aide, je te facilite la vie, je t'achète ça pour nous.
Ouais.
Donc, des investissements collectifs. Puis eux, les pires trahisons, c'est, mettons, donner un objet à quelqu'un d'autre qui nous appartient à nous.
Oui, c'est une fine analyse, ça, Paul. Vraiment. Ouais.
Donc, la culture.
Hey, c'est déjà la fin, mon Dieu. Aurais-tu un petit dernier point à partager là, avant qu'on termine tout ça? On a fait le tour pas mal. Hein?
Acceptez vos langages de l'amour.
Acceptez vos langages de l'amour. Donc, les 5 langages amoureux à ne pas négliger, à connaître pour vous et votre conjointe. C'est primordial pour une relation saine et en santé. Max, merci beaucoup. Docteur Possimard, psychologue, merci beaucoup. On peut te trouver un peu partout sur les réseaux.
Sur le web, Docteur Possimard, psychologue,
Docteur Possimard, psychologue. Merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir. C'était la Sexploratrice sur les ondes de choix, 98.1 Radio X.
Bye-bye.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.